Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Vos coachs placements sont mobilisés, leur vision, leurs pistes d'investissement jusqu'à 18h. Ils vont vous aider à butiner le marché, glaner, picorer les idées qui peut-être réveilleront l'investisseur qui sommeille en vous. Bienvenue à tous, on va donc avancer au rythme des marchés tout au long de l'après-midi. Les marchés qui végètent un peu, en l'occurrence, on a un CAC 40 qui repart très légèrement à la baisse aujourd'hui, cet après-midi en tout cas, moins 0,18% sur l'indice CAC, alors qu'on a un indicateur favorable pour la zone euro, le PMI composite repasse en zone d'expansion au-dessus des 50 en janvier, ce pour la première fois depuis le mois de juin dernier, peut-être un signe supplémentaire que oui, la zone euro pourra éviter la récession, mais du point de vue des marchés, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle, puisque les marchés se disent que du coup, la BCE sera encore moins complexée si elle souhaite continuer de relever ses taux, dans la mesure où les indicateurs s'améliorent, en tout cas certains indicateurs de confiance, on va en parler avec nos experts, et du coup, donc, les marchés ne célèbrent pas ce bon indicateur européen. On a les indices qui végètent légèrement sur le front obligataire. Pas de très très grosse tendance non plus. Il faut dire qu'on sort quand même d'un début d'année extraordinaire. Le CAC 40 a progressé sur 13 des 16 dernières séances. Rien que ça, et le Nasdaq sur les deux derniers jours, le Nasdaq a récupéré quasiment 5%. On va aussi en parler. Le Nasdaq qui fera particulièrement suivre dans les prochains jours avec les publications des GAFAM qui vont démarrer ce soir. Microsoft ouvrira le bal. Et puis on parlera aussi tout à l'heure des cryptos, bien évidemment, comme chaque jour, 16h35, notre club BFM Crypto. Vous allez voir que le nombre de détenteurs de crypto-actifs bat des records, et ce malgré l'hiver crypto, malgré la chute des cours des cryptos en 2022. On vous apportera les détails et les derniers chiffres disponibles. Ce sera avec nos experts et notamment Valentin Demey. Il sera avec nous pour Crypto. C'est à partir de 16h35. On est à vos côtés. On joue dans votre camp pendant 3 heures sur l'ensemble de vos investissements. Et tout de suite, on va aussi parcourir l'ensemble de l'actu du jour. Stéphanie Collo nous rejoint.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, après la tech, l'industrie américaine sabre aussi dans ses effectifs. 3M va supprimer 2500 emplois, conséquence de la baisse de 60% de son bénéfice trimestriel et d'un ralentissement de la demande. Pour 2023, le groupe anticipe une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 6%. De son côté, General Electric prévoit un bénéfice inférieur aux attentes en 2023, plombé par les énergies renouvelables, une activité toujours déficitaire pour le groupe. La division accuse une perte de plus de 2 milliards d'euros en 2022. Toujours aux États-Unis, dans le secteur de la défense, Lockheed Martin anticipe toujours une stagnation de ses ventes cette année, malgré un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 65 et 66 milliards de dollars, contre 66 milliards réalisés en 2022. C'est lié à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et à une pénurie de main-d'œuvre. En France, il y a eu cette grosse levée de fonds aujourd'hui dans la Deep Tech. Pascal, spécialisé dans l'informatique quantique, lève 100 millions d'euros. Parmi ses cofondateurs, on retrouve Alain Aspect, le prix Nobel de physique 2022. L'objectif de la start-up désormais est d'accélérer son développement à l'international et de proposer des innovations majeures d'ici 2024. Carmat continue d'annoncer de bonnes nouvelles. Le fabricant du cœur artificiel anticipe d'atteindre le seuil de rentabilité en 2027. D'ici là, le groupe vise un chiffre d'affaires de 10 à 13 millions d'euros cette année, porté par la montée en cadence industrielle. Notez que Stéphane Pia, le PDG de Carmat, sera l'invité de Good Evening Business ce soir, et ce sera à partir de 19h10. La zone euro échappera-t-elle à la récession cet hiver? En tout cas, après 6 mois de contraction, l'activité progresse de manière inattendue. En janvier, l'indice PMI Flash se redresse au-dessus de 50 et se trouve au plus haut depuis 7 mois. En France, ça y est, Thierry Cotillard a été formellement élu président des Mousquetaires. Patron d'Intermarché de 2015 à 2020, il prend la tête de la maison mère, minée par des luttes internes exacerbées par l'inflation. Il compte se concentrer résolument sur le discount. Et puis, la saison des NAO bat son plein. À la RATP, trois syndicats acceptent la proposition d'augmentation de 5,7% de la direction. Les salaires vont augmenter de 1 365 euros net sur l'année, soit 105 euros net par mois, Guillaume.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Stéphanie, on va continuer de parcourir l'ensemble de l'actu du jour tout au long de l'après-midi. Et Étienne nous accompagne aussi depuis la Tour Euronext, les marchés, la séance du jour en direct. Bonjour Étienne, dans le Saint des Saints, la salle de contrôle du CAC 40. Ravi de vous retrouver. Comment se passe cet après-midi sur les marchés, Étienne ?
Bien, c'est une séance de pause aujourd'hui. On a un indice parisien qui est quasiment au plus bas du jour, qui perd 0,18%, mais on maintient le seuil des 7000 points, 7019 points, le tout avec des volumes d'échange assez faibles. Marché qui doute un petit peu avec Wall Street qui est attendu dans le rouge. Quand vous regardez les contrats futurs, on a trois indices qui devraient ouvrir sur une baisse d'environ 0,5%. Stéphanie en parlait, des publications d'entreprises qui déçoivent aux États-Unis, puisque vous avez notamment GE qui est attendu sur une baisse de plus de 4%, idem pour 3M. En attendant, bien sûr, la publication de Microsoft ce soir avec les mastodontes qui vont publier leurs résultats, que ce soit aux États-Unis puis aussi en Europe, avec bien sûr LVMH qui va dévoiler ses résultats annuels. Ça sera jeudi soir. En attendant, donc, on a des investisseurs qui limitent un petit peu les initiatives, qui ne veulent pas vendre. Et puis, dans le même temps, vous avez certains investisseurs qui ont loupé la hausse et qui attendent des catalyseurs avant de rentrer sur ce marché. À noter que le obligataire est parfaitement stable aujourd'hui, avec un 10 ans français qui est à 2,65, un 10 ans allemand qui est à 2,2%, quand le 10 ans américain est à 3,5%. Aujourd'hui. Et puis les cours du pétrole également qui font une pause, donc que ce soit sur les matières premières, l'obligataire et sur l'action, c'est étal aujourd'hui avec un Brent qui se stabilise à 88$. À noter qu'il avait nettement surperformé ces derniers jours avec le marché qui anticipe la reprise de la Chine et puis surtout l'embargo russe qui prendra effet le mois prochain, ça sera début février.
Effectivement, d'où la hausse récente en effet des cours du pétrole et sur la réouverture chinoise, on en parlera. Comment accompagner en bourse la réouverture chinoise, quels secteurs peuvent encore profiter de cette réouverture. François Monnier sera avec nous en direct à partir de 15h50 pour en parler. En attendant, on va suivre aussi d'ici là l'ouverture de Wall Street, attendue en petite baisse. Le S&P 500 futur perd 0,5%. Philippe Ferreira est avec nous pour Kepler. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. Philippe, après cet incroyable début d'année, on le disait, sur les 16 dernières séances, le CAC a progressé 13 fois. 13 des dernières séances étaient des séances de progression. Et alors qu'on ne fait qu'entamer la saison de publication, quel type de valeur, quel profil de valeur faut-il à vos yeux désormais privilégier dans les portefeuilles, Philippe ?
Bonjour. Alors, en effet, le marché a connu un rebond assez spectaculaire en ce début janvier, mais à replacer dans le contexte d'une année 2022 très difficile, très compliquée. Alors nous, ce qu'on observe un peu d'un point de vue global, c'est que le risque de dérapage inflationniste a diminué, le risque de récession a également diminué avec la réouverture de la Chine. Donc, le profil de valeur qui nous semble attractif aujourd'hui, pour jouer les prolongations de ce rebond de marché. Alors, on aime bien les valeurs bancaires. On trouve que les bancaires sont toujours très attractivement valorisés et devraient bénéficier de cet environnement de taux plus élevé et aussi devraient bénéficier du fait que les risques sur la croissance sont désormais plus limités, notamment en Europe, avec la baisse du prix de l'énergie. Donc, les bancaires sont un espace, un secteur intéressant à jouer, selon nous, pour jouer des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps et une croissance qui finalement est résiliente. Dans cet univers de bancaires européennes, des valeurs comme BNP Paribas nous semblent toujours très attractives. Aussi, en Espagne, on trouve que Santander est attractivement valorisé par rapport à son profil de rentabilité. Voilà deux idées un petit peu pour jouer cette thématique bancaire. Dans un monde de taux plus élevés que ce qu'on a connu par le passé et où les risques sur la croissance semblent maîtrisés.
Bon, une prime donc au secteur bancaire, à vos yeux, qui vous semble donc, en tout cas à vous, spécialiste, chez Kepler, particulièrement bien positionné pour tirer son épingle du jeu, même si le secteur a bien rebondi depuis quelques semaines et quelques mois, il reste un certain potentiel, vous nous avez décrit et apporté un certain nombre d'arguments. Une autre valeur, alors on est dans un tout autre secteur qu'il faut suivre aujourd'hui, on est sur les toutes premières publications du marché parisien, Interparfums. Interparfums qui semble plutôt décevoir le marché. En tout cas, le titre Interparfums perd 1%. Déception peut-être parce qu'Interparfums se montre prudent pour la suite. En tout cas, son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, son chiffre d'affaires a quand même progressé de 60%. Est-ce que le marché est sévère aujourd'hui en sanctionnant Interparfums d'une baisse d'1% en ce moment? C'est ce qu'on observe, ce titre en baisse d'1%. Est-ce que c'est peu sévère et cruel de la part des investisseurs d'après vous?
Tout à fait. Les marchés sont un petit peu sévères parce que les résultats sont bons. La performance est excellente sur les principales marques Montblanc, Jimmy Choo, Coach. Et en effet, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc le manque de clarté sur les résultats futurs sont pénalisants un petit peu. Mais Interparfums devrait quand même donner plus d'éléments prochainement et donner une guidance très rapidement. Donc, de ce point de vue-là, les résultats sont en ligne avec ce qui avait été annoncé par le passé. Les entreprises et Interparfums, ici en l'occurrence, font preuve d'une forme de conservatisme parce qu'il y a quand même un manque de visibilité sur l'activité économique. Et Interparfums est une entreprise exposée au secteur cyclique, c'est-à-dire que s'il y a une récession et montée du chômage, la demande pour ses produits sera quand même fortement en baisse. Donc, d'où la prudence que les marchés n'apprécient pas. Mais il nous semble que la valeur reste intéressante. Il nous semble que, il y a beaucoup de points forts, notamment sur le pipeline de nouveaux produits pour 2023, sur le potentiel de Moncler, qui a été décevant en 2022, et aussi quelques points d'interrogation sur les chaînes d'approvisionnement qui devraient se clarifier dans les mois prochains avec la réouverture de la Chine aussi d'un point de vue plus global. Hein, la problématique des chaînes d'approvisionnement est en train de s'améliorer et Interparfums devra en bénéficier.
Et ce titre, malgré tout en repli, repli que vous jugez du coup sévère, on est en baisse en ce moment d'1% sur cette valeur. Merci beaucoup Philippe Ferreira de nous avoir accompagnés depuis les bureaux de Kepler pour réagir aux annonces du jour, les toutes premières publications sur le marché parisien. On parlait d'Interparfums et puis en Europe, on en suit d'autres des publications et notamment sur le secteur du luxe. On rejoint à nouveau Étienne. Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Étienne, vous avez repéré notamment ce titre Swatch à surveiller cet après-midi.
Oui, Swatch, hein, qui ne vend pas que des montres en plastique à quelques dizaines d'euros, puisqu'ils ont de très belles marques sur le premium et le luxe, avec notamment Omega, Tissot ou encore Longines. La semaine dernière, on avait la publication de Richemont, hein, qui est l'un de ses gros concurrents en Suisse. Et puis, on avait également Burberry, avec le marché qui était un petit peu déçu par rapport aux perspectives, et puis surtout par rapport aux résultats en dessous des attentes. Mais là, du côté de chez Swatch, on a un discours qui est très optimiste, hein, puisqu'on a un groupe qui constate que la consommation a rapidement repris, que ce soit à Hong Kong, à Macao, ainsi qu'en Chine, après la levée des restrictions, au point qu'au mois de janvier, qui n'est pas encore achevé, hein, puisqu'on est seulement le 24, eh bien, on a des ventes qui sont en nette hausse en Asie par rapport à l'année dernière pour Swatch. Et on a un marché qui achète la nouvelle, hein, malgré un chiffre d'affaires qui est légèrement en dessous des attentes au quatrième trimestre. Eh bien, vous avez un groupe qui se focalise sur les perspectives et ça permet à ce titre Swatch qui gagne 2,6% à Zurich à 314 francs. Titre important quand même en Europe, puisque ça a une capitalisation d'un peu plus de 16 milliards d'euros.
Étienne Braque qui nous accompagne depuis la Tour Euronext dans le Saint-Dessin, la salle de contrôle du CAC, Vénard. À tout à l'heure, on vous retrouvera à 16h, Étienne. Le CAC 40 qui recule légèrement, là, moins 0,2%, 7018 points. On préserve donc quand même les 7000 points. On a un indicateur intéressant aujourd'hui qui concerne la zone euro. Certes, les actions, les marchés actions végètent, mais pour ce qui concerne les PMI de la zone euro, ça repart très très fort. On repart au-dessus des 50. En zone d'expansion, donc, la perspective d'une récession en zone euro s'éloigne sans doute. On va en parler en tout cas avec notre macroéconomiste. Tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Samy Char, chef économiste de Lombard et compagnie, nous accompagne. Bonjour Samy, on est ravis de vous retrouver, d'autant qu'on a donc un bel indicateur aujourd'hui en Europe. C'est PMI composite au-dessus des 50, 50,2 en janvier. C'est la première fois depuis le mois de juin, depuis 7 mois donc, que l'on repasse en zone d'expansion sur les indicateurs PMI. Est-ce que cela éloigne davantage encore la perspective d'une éventuelle récession pour la zone euro, d'après vous?
Alors disons que ça permet surtout de caractériser un petit peu les perspectives. Déjà, les risques de récession marqués, donc d'une grosse récession, s'écartent de plus en plus, et ça, c'est vraiment effectivement une très très bonne nouvelle. La deuxième grande leçon de ces chiffres, c'est que les perspectives d'inflation, elles aussi s'améliorent. On a les prix tels que reflétés dans ces indicateurs qui continuent de baisser et on a des indicateurs également dans ces chiffres-là d'amélioration des chaînes de valeur et de raccourcissement des délais de livraison. Donc effectivement, que ce soit au niveau de la croissance ou au niveau de l'inflation, des perspectives qui s'améliorent. Est-ce que vraiment c'est suffisant pour totalement écarté les risques d'une récession qui pourrait être bénigne. Bon, pas vraiment. Il y a quand même toujours les nouvelles commandes et les commandes à l'export qui sont sous les 50, donc qui montrent qu'il y a quand même une forme de fragilité encore intrinsèque à nos économies. Et puis, il faut se rappeler qu'on va rester dans un contexte où la Banque Centrale Européenne va être restrictive, donc ça va contraindre l'investissement en zone euro, et où quand même le choc sur le pouvoir d'achat n'est pas complètement dépassé. On va avoir 6 ou 9 mois où le pouvoir d'achat quand même des Européens va rester sous contrainte. Donc, récession sévère écartée, oui, mais des épisodes récessifs, c'est toujours possible.
Effectivement, et on voit la réaction très très mitigée des marchés après cet indicateur quand même surprenant, meilleur qu'attendu, au-dessus des 50, qui l'eût cru en ce mois de janvier, au cœur de l'hiver, dont on craignait le pire, avec d'éventuelles pénuries énergétiques, une flambée des prix de l'énergie, en cas de grand froid notamment. Bah on voit que finalement, on n'a pas de pénurie énergétique et les prix de l'énergie se sont bien calmés, si bien donc que le moral des directeurs d'achat est en train de progresser. Un mot plus global quand même sur le train mondial. Est-ce que la réouverture chinoise va, d'après vous, Samy, permettre à la mondialisation de réaccélérer? Je vous pose d'autant plus la question qu'on a donc appris il y a quelques heures que la Chine était devenue le deuxième plus grand exportateur mondial de voitures, passant devant l'Allemagne. On imagine que la multiplication des véhicules électriques devrait aussi porter les constructeurs automobiles chinois et porter les exportations chinoises. Est-ce qu'on s'oriente vers un nouveau super cycle, peut-être contre toute attente, de mondialisation, d'après vous ?
Alors, pas nécessairement. Il y a quand même un élément sur lequel il y a un consensus au niveau de la mondialisation, c'est qu'on rentre quand même de plus en plus dans une logique de bloc, avec peut-être un bloc chinois d'un côté et un bloc américain et occidental de l'autre. Là où, en revanche, il n'y a pas du tout consensus, c'est sur qu'est-ce que ça veut dire, cette logique de bloc. Est-ce que vraiment c'est une opposition disruptive entre les deux blocs et que la mondialisation va péricliter de ce fait? On n'a jamais été très amateur de cette idée de démondialisation. Au contraire, des logiques de bloc, on en a déjà vu, notamment dans l'après-guerre avec l'Union soviétique. Et une logique de bloc, ça ne veut pas forcément dire la fin des échanges commerciaux. Bien au contraire, ça veut dire plus d'échanges commerciaux au sein des blocs, peut-être moins d'échanges commerciaux entre les blocs. Mais il faut se rappeler qu'une logique de bloc, ce n'est pas qu'une opposition disruptive, c'est aussi une course entre deux blocs, entre deux modèles, et chaque bloc veut gagner la course, et donc on essaye de faire prospérer ces blocs-là avec pas mal d'échanges, pas mal de soutien et une espèce de gain de leadership, notamment sur le secteur technologique. Donc bien sûr, la mondialisation n'est pas un phénomène statique, c'est quelque chose qui évolue, et aujourd'hui on rentre peut-être dans une nouvelle phase de cette mondialisation.
Où l'on aurait donc cette régionalisation des blocs qui émergent en effet, mais en même temps, ce chiffre aussi qu'on a eu il y a quelques jours, record d'échanges de biens entre les États-Unis et la Chine l'an dernier, record, jamais on avait atteint de tels niveaux dans les échanges de biens entre les deux pays, et ce malgré les restrictions, les politiques douanières aussi plus restrictives. Est-ce qu'on peut imaginer, Samy, pour l'avenir, une poursuite certes de la régionalisation de la mondialisation, mais parallèlement aussi une intensification des échanges mondiaux? Est-ce qu'on pourrait avoir les deux à la fois, d'autant plus que la Chine, sur cette question par exemple des batteries électriques, qui va devenir de plus en plus vitale et incontournable pour les véhicules, la Chine a clairement un leadership. Et donc nos pays, l'Europe, aura besoin des produits chinois et donc d'échanger davantage avec la Chine.
Oui, absolument, Guillaume. Cette logique de bloc, elle va pas se mettre en place en une fois, et les liens commerciaux entre ces deux blocs ne vont pas s'interrompre d'un coup. Dans ce que vous dites, il y a des choses très très vraies. On a encore besoin de la Chine, et donc on est encore en train d'importer. Quelque part, la Chine continue d'exporter de la désinflation via ses biens et ses matériaux-là. Mais l'inverse est aussi très vrai. La Chine a encore énormément besoin du consommateur, notamment américain. Ça reste le plus gros client des Chinois aujourd'hui. Une des principales sources de croissance, ces voitures électriques que vous mentionnez, eh bien, il faut bien les exporter, il faut bien un consommateur. Et la Chine a donc encore besoin du consommateur occidental pour prospérer. Elle n'a pas suffisamment développer sa croissance domestique, sa classe moyenne, son niveau de consommation. Elle a besoin des autres. Et donc, effectivement, même si cette logique de bloc avance, on continue d'avoir des rapports commerciaux assez forts entre les deux blocs. Et je dirais, de la même manière qu'on a eu des chiffres sur les rapports commerciaux entre la Chine et les États-Unis, c'est assez extraordinaire d'avoir parlé de démondialisation à un moment où on atteint des records en termes de volume d'importation et d'exportation au niveau global. Donc une mondialisation qui évolue, mais cette idée vraiment que les échanges commerciaux vont péricliter, on n'achète pas.
Samy Char avec nous aujourd'hui en direct sur BFM Business. Merci beaucoup Samy de nous avoir accompagné, chef économiste de Lombard-Odier et compagnie. On rappelle donc la Chine qui est donc devenue, on en parle beaucoup depuis ce matin sur l'antenne de BFM Business, devenue le deuxième exportateur mondial de voitures devant l'Allemagne, mais encore derrière le Japon. Bon après-midi Samy, à très bientôt. Le CAC 40 est toujours en très légère baisse. Wall Street va ouvrir dans 11 minutes. On sera sur place à New York. On va rejoindre Sabrina Twaliozzi pour l'ouverture de Wall Street attendue en petite baisse de 0,5%. C'est ce que nous indiquent les futurs du S&P, moins 0,6 même en ce moment sur le S&P 500 futur.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
L'amour est dans le prêt immobilier. Enfin, l'amour. Oui, ça a duré quelques années, les taux bas. Sauf que les taux remontent. Le désamour est dans le prêt, dans l'emprunt immobilier désormais. On va en parler avec Cécile Roquelaure, stratégiste et porte-parole d'Empruntis. Bonjour Cécile, ravie de vous retrouver.
Guillaume.
En pleine réforme des retraites d'ailleurs. Comment l'attrait pour le crédit immobilier évolue-t-il? Que disent vos indicateurs sur l'évolution de la demande vis-à-vis du marché immobilier?
Alors la demande, elle est toujours très très bonne, hein. Et effectivement, c'est des chiffres qu'on a réservés, Guillaume, à votre intention. On a regardé comment les intentions d'achat évoluaient sur ce début d'année, et contre toute attente, les Français ont envie d'acheter de l'immobilier, toujours plus, puisqu'ils sont 19% de plus à faire le choix de l'immobilier dans leur patrimoine pour ce début d'année par rapport à janvier 2022, alors même qu'on était déjà, vous le disiez, dans une dynamique très forte. Donc il n'y a pas de désamour pour l'immobilier, et on voit que c'est tous les types de projets qui en profitent, puisque les primo-accédants sont 19% de plus à vouloir acheter de l'immobilier, les secondos plus 30%, alors avec un petit changement dans la méthode, puisque en fait ils ont plutôt envie de vendre un peu plus qu'avant, avant d'acheter, certainement des craintes liées au prix de l'immobilier, et même pour l'investissement locatif, on est à plus 14% d'intention d'achat en ce début d'année.
Bon, les secondo-accédants, donc, qui sont 30% plus qu'il y a un an, à la même période, à vouloir acheter de l'immobilier. Ouais. Les primo-accédants, 19% plus aussi. Donc, on a une vraie résistance, voire un rebond de la demande pour l'immobilier. Comment l'explique-t-on alors que les taux sont toujours en train de progresser, que c'est une forme de tue-l'amour, que c'est ainsi que tout le monde nous l'explique? Comment explique-t-on ce désir d'immobilier qui va croissant?
En fait, ça reste un besoin fondamental. Se loger, c'est pas une option, c'est une obligation. Et l'immobilier, ça reste une valeur sûre dans le cœur des Français. On a toujours besoin de cette brique essentielle à la construction d'un patrimoine. Et vous le disiez, dans le cadre d'une réforme des retraites, dans la préparation de la dépendance plus tard, en fait, à chaque âge, l'immobilier est la pierre angulaire. Et même si les conditions de taux sont un peu moins favorables, puisqu'on a des taux qui sont quand même significativement remontés depuis janvier l'année dernière, malgré tout, ça reste une très bonne opportunité. Alors, le point qui peut créer de l'attention et de l'attente, c'est la variation sur les prix de l'immobilier. C'est vrai qu'en général, quand on a une hausse des taux, on s'attend à avoir une baisse des prix. Elle n'est pas encore là. Et c'est peut-être ce qui fait accélérer les acheteurs qui disent bah, en fait, mieux vaut avoir des taux un petit peu plus élevés, mais ils vont continuer à progresser. Ça sera peut-être un impact plus négatif sur le pouvoir d'achat que d'attendre une éventuelle baisse des prix.
Et alors, ceux dont le nombre à vouloir acheter, dont la proportion, la quantité en tout cas, progresse le moins, ceux qui voient leur appétit pour la pierre le moins progresser sur un an, ce sont les investisseurs locatifs, clairement, qui sont beaucoup moins nombreux que les autres à vouloir acheter de la pierre. Comment cela l'expliquez-vous, Cécile?
Alors, en fait, on est sur un monde en mouvement hein, sur l'immobilier locatif. On a quand même la fin du Pinel, l'arrivée du Pinel Plus avec de nouvelles contraintes pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Et puis, globalement, il faut se rappeler quand même qu'on fonctionne dans un nouveau terrain de jeu en matière de crédit avec le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a donné de nouvelles normes qui sont en application ferme et définitive depuis le 1er janvier 2022, qui contraignent énormément les banques dans le financement de ce type de projet. Et puis, quand vous avez un marché où vous avez risqué d'avoir des baisses des prix, bah les banques et les organismes de caution sont beaucoup plus vigilants sur le type de biens qu'ils financent. Et puis enfin, quand on a un risque de récession économique ou des entreprises qui peuvent mettre la clé sous la porte, c'est un risque de location sur les locataires. Et donc ça aussi, ça a tendance à un peu moins favoriser. Pour autant, c'est vrai que là aussi, c'est une valeur sûre pour avoir des revenus complémentaires ou pour se libérer un capital pour le passage à la retraite.
Bon, l'investissement locatif, donc plus 14%, la demande des investisseurs pour l'investissement locatif, les secondo-accédants plus 30% et les primo-accédants, leur demande pour l'immobilier, leur appétit d'immobilier progresse sur un an de 19%. On a eu ce geste quand même de la Banque de France qui nous annonce sur le taux d'usure, allez, un pivot, un changement de pied, désormais le taux d'usure sera mensualisé, en tout cas au moins jusqu'à l'été. Est-ce que pour le coup, ça, c'est de nature à refluidifier le marché et redonner du pouvoir d'achat à un certain nombre de tous ceux dont vous nous parlez et qui souhaitent acquérir de la pierre?
Oui, c'est un élément très important qui était très attendu. Hein. C'est pas un chamboulement complet de la méthode, vous le disiez, on est sur une mensualisation de l'actualisation du taux d'usure. On va conserver les trois derniers mois comme critère de référence, mais pour autant, aujourd'hui, on a des banques qui ne peuvent pas augmenter les taux aussi rapidement que l'évolution de l'OAT, qui est la base de référence pour définir les taux de crédit. On est aujourd'hui à 2,6% quand on a des crédits qui sont en moyenne à 2,7% sur 20 ans. Et ça, c'est un problème pour les banques parce qu'elles n'arrivent pas à faire payer le juste prix du crédit. Le taux d'usure, c'est lui qui les contraint à ne pas augmenter leurs tarifs comme il conviendra au vu du coût des matières premières pour elles. Le taux d'usure en calculant mensuellement, effectivement, ça va libérer des marges de manœuvre aux banques. Alors certes, le crédit va augmenter par palier, mais là où il prenait 50 points de base pour un trimestre, il le prendra peut-être par petites étapes. Et donc, ceux qui avaient un problème de taux d'usure vont pouvoir voir leur dossier se débloquer pour une grande partie d'entre eux par étapes là aussi. Donc, ça va fluidifier le marché. Et puis surtout, ça évitera ce qu'on craignait tous. C'est un goulot d'étranglement. On prévoyait qu'on ait un retour à la normale pour le mois de juillet. Ça voulait dire qu'à la période des vacances où on a un collaborateur sur deux dans le système financier qui travaille, on aurait eu un afflux de demandes pour tous les dossiers qui avaient besoin d'être débloqués et être remis en instruction. Et ça aurait créé un nouveau goulet d'étranglement, des allongements de durée de traitement. Et ça, ce n'était pas forcément de bon augure. Ce n'était pas le bon timing, en tout cas. Donc là, on va avoir des étapes qui vont avoir lieu jusqu'à l'été. Et c'est une excellente nouvelle.
Cécile Roquelaure pour Empruntis nous accompagner. Merci beaucoup, Cécile, de nous avoir accompagnés en direct donc sur BFM. Bon après-midi. Le CAC 40 est toujours en très légère baisse, moins 0,14%. Dans quelques instants, Wall Street ouvrira. Ça tombe bien, on sera sur place. On va rejoindre notre correspondante permanente, Sabrina Quagliuzzi, sur place pour les premiers échanges. Les futurs américains sont en baisse. À 4 minutes d'ouverture de Wall Street, le S&P 500 futur recule de 0,5%. Avec de premières publications aujourd'hui, un petit peu décevantes. Sabrina nous livrera le détail, bien sûr, dans un instant. Et puis ce soir, après la clôture, Microsoft publiera. Ce sera, bien sûr, à suivre particulièrement, notamment sur la séance de demain. Pour ce qui concerne le marché parisien, alors on le disait, on est en légère baisse, mais on préserve quand même les 7000 points là, à la Bourse de Paris, 7022 points, le CAC 40. La plus forte hausse, c'est Engie. Engie gagne 2,5% devant Publicis, qui va aussi très rapidement publier. D'ailleurs, Publicis, le titre gagne en ce moment un peu plus d'1,5%. Et puis demain, c'est Alstom qui annoncera ses résultats. Premier groupe du CAC à véritablement sortir du bois dans cette saison de publication. Le titre Alstom a surveillé donc également aujourd'hui parmi les valeurs qui feront l'actualité de cette semaine. Et puis n'oubliez pas également Interparfum. Interparfum recule pour le coup, le groupe a publié en l'occurrence, c'est Interparfum qui semble décevoir notamment sur ses prévisions jugées très prudentes par le marché. Interparfum perd un peu plus de 0,9% malgré quand même un super chiffre d'affaires. Il progresse au quatrième trimestre de l'exercice de 60%, mais pour la suite donc pas mal de prudence d'Interparfum qui promet des perspectives plus chiffrées début mars. Il va falloir donc rester patient sur les marchés. Nos experts du jour chez Kepler jugeaient tout à l'heure un peu sévère la baisse de ce titre Interparfum dont ils estiment le potentiel pour la suite encore assez important. Et puis une autre valeur qu'il faut suivre aujourd'hui, c'est Carmat qui, pour la première fois, met des objectifs financiers sur la table en termes de résultats, de chiffre d'affaires. Carmat vise la rentabilité pour 2027. Carmat qui espère bien pouvoir fabriquer 1000 cœurs artificiels chaque année en 2027, 400 dès 2024. Ce titre Carmat, malgré tout, recule aujourd'hui et s'ajuste. Après, c'est vrai, les évolutions qu'il a connues, ce titre, ces dernières semaines et ces derniers mois, on est en baisse en ce moment sur le titre Carmat. On est à vos côtés, on vous accompagne pour encore 2h30 et dans un instant, donc, direction New York, on va rejoindre Sabrina Quagliuzzi pour les premiers échanges à Wall Street. Ce sera à vivre en direct ensemble. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Et chaque après-midi, le soleil se lève à l'ouest. C'est à l'ouest que les marchés s'animent et se réveillent. Wall Street est en train d'ouvrir. Direction New York donc. La séance démarre. Où la cloche retentit, vous l'entendez. Direction New York. Sabrina nous attend. Bonjour Sabrina, on est ravis de vous retrouver en direct depuis la côte est américaine. Comment se passent ces tout premiers échanges chez vous aujourd'hui ?
On reprend son souffle aujourd'hui après avoir bien grimpé sur la séance d'hier et sur les trois indices américains, des marchés américains qui sont d'ailleurs toujours en hausse depuis le début de l'année, notamment le Nasdaq qui surperforme nettement depuis le début de l'année. Alors on reprend un peu son souffle ce matin, on perd 0,47% à l'ouverture sur l'indice Dow Jones, 33 469 points. Le S&P 500, moins 0,49%, on maintient les 4000, on verra si ça tient, mais... Une baisse donc pour le S&P 500, le Nasdaq, de son côté, affiche un repli de 0,5% ce matin à l'ouverture avec un indice à 11 301 points. Des marchés qui dirigèrent toute une série de publications, on y revient dans quelques instants. Si on regarde du côté de l'obligataire, on a un 10 ans américain qui se détend, 3,51. Le pétrole, lui, est en petite hausse, 81,66 $. Et ce marché donc qui recule. Des rendez-vous, de grands rendez-vous du côté de l'actualité des entreprises. Le Dow Jones, donc, moins 0,4%. Le Nasdaq cède de son côté 0,6%.
Effectivement, et du côté des sociétés, vous l'avez dit, ça accélère un peu sur les publications. Quelles sont celles qu'il ne faut surtout pas rater pour cette nouvelle séance américaine, Sabrina ?
Écoutez, déjà ce soir, on a Microsoft qui va lever le voile sur ses résultats trimestriels. Microsoft qui ouvre ce matin sur une baisse de 0,45%. On a eu également dans les télécoms Verizon qui fait des annonces mitigées avec des résultats sur son quatrième trimestre qui sont sortis au-dessus des attentes avec un nombre d'abonnés mobile qui est ressorti légèrement au-dessus des attentes. En revanche, du côté des prévisions, ça reste prudent. Verizon qui prend néanmoins plus de 7% ce matin à l'ouverture. Parmi les autres publications bien accueillies, on notera dans la défense Lockheed Martin des chiffres supérieurs aux attentes, une progression de 0,18% pour le titre à $442. Et puis vous avez également Johnson & Johnson qui prend 0,8% après la publication de ses résultats trimestriels, des chiffres qui sont supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, un petit peu juste si on regarde les prévisions, mais encore une fois, le titre est en hausse, plus 1,31% ce matin. Les autres publications, vous avez 3M qui perd 5,5% après la publication de ses résultats trimestriels, des chiffres inférieurs aux attentes, des prévisions également qui sont prudentes pour l'ensemble de 2023, et donc une sanction sur le titre de 5% à l'ouverture. GE a également publié ses résultats trimestriels, on recule de 1,8% sur le titre malgré des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé. Tout cela donc encore une fois en attendant ce soir les résultats de Microsoft. Et puis hors résultat, on garde un œil sur le retailer Bed Bath & Beyond, la folie spéculative qui est de retour notamment sur ce titre qui prend ce matin l'ouverture 21% malgré de gros doutes sur le futur de la société. Le titre Bed Bath & Beyond, donc plus 21% à $3.57 dans une tendance donc négative après une belle séance à Wall Street. Le Dow Jones cède 0,46%. L'indice S&P 500 cède du terrain mais se maintient au-dessus des 4000 points. Le Nasdaq, de son côté, perd 0,4%.
Effectivement, et Bed Bath & Beyond, impressionnant. Hein, depuis le début d'année, le titre a plus que doublé alors qu'il y a plus que des questions. Hein, en effet, sur son avenir, le groupe peut être au bord de la faillite, mais ça n'empêche pas la spéculation de reprendre sur certaines de ces valeurs. On pense également à MicroStrategy, l'éditeur qui avait misé sur le Bitcoin et qui, depuis le début de l'année, a récupéré plus de 67%. On voit aussi ARK, le fonds ARK qui progresse depuis le début de l'année de quasiment 20% désormais. Voilà, en à peine 2-3 semaines. Merci Sabrina. Sabrina Quagliozzi nous accompagne en direct chaque jour. On vous retrouvera tout à l'heure pour la suite de cette séance américaine, bien évidemment. Wall Street ouvre en légère baisse. Le CAC 40, du coup, recule aussi très légèrement. Quelques petites prises de bénéfices. On maintient, on préserve quand même les 7000 points, 7016 points, moins 0,2%. On est à peu près dans la moyenne des autres marchés européens. L'Eurostock 50, lui, perd 0,3%.
BFM Business. BFM Bourse. Mouvement de marché.
Franklin Pichard nous rejoint, directeur général de Keeping Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Tiens, on va démarrer peut-être dans le vif du sujet, les publications des entreprises qui vont vraiment accélérer et peut-être mettre à l'épreuve l'optimisme incroyable des marchés en ce début d'année. Peut-être d'abord un regard global sur ce que l'on peut attendre de ces publications. On a aujourd'hui peut-être plus de déceptions que de bonnes surprises, en tout cas sur les publications du jour aux États-Unis. On a eu le sentiment aussi la semaine dernière qu'on avait peut-être plus de warning à la baisse qu'à la hausse. Comment est-ce que vous vous préparez à ce que nous concoctent les entreprises?
On a eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises. En juin, les publications ont été saluées par le fameux rallye qui s'est arrêté le 16 août. Sur les publications du T3, on a eu ce fameux rallye qui a démarré le 1er octobre et qui a marqué le pas les 15 derniers jours de décembre et qui depuis a repris. On a vu par exemple, pour notre indice phare, l'indice parisien rebondir sur ce niveau du 29 septembre de plus de 20% et dont 8% depuis le début de l'année. Alors, cette saison des publications, c'est très compliqué. Hein. Les investisseurs et les gérants que je croise sont très mal à l'aise et pris un peu à contre-pied avec ce mouvement haussier qui ne consolide pas véritablement. On a vu une petite consolidation hein, quelques jours plus technique que fondamentale et on reste justement dans des marchés dominés par la technique. Donc aujourd'hui, on a cette approche par rapport aux résultats, de savoir est-ce que ça va être un effet qui va permettre d'aller chercher quelques points de plus, quelques pourcentages de plus. Mais c'est vrai qu'on voit déjà que les volumes ralentissent énormément et que ça traduit une sorte de malaise des investisseurs qui abordent en plus cette saison des publications, comme vous le soulignez, avec des warnings qui peuvent un peu faire peur, parce que quand on a un warning, immédiatement la sanction est immédiate et vertigineuse. Donc on va aborder avec beaucoup de précautions cette saison des publications. Ça nous a pas empêché de faire quelques paris. On espère qu'on ne sera pas déjoué dans nos pronostics. Je vois par exemple à Paris Alstom, et quelque chose que nous avons joué.
Il publiera demain Alstom.
Il publiera demain. Et puis du côté des valeurs américaines, on avait été préparé à des warnings par des plans de suppression d'emplois, que ce soit Spotify hier qui a annoncé 10 000 suppressions, mais on avait eu Microsoft, on avait eu Meta, on en avait eu plusieurs, de plusieurs dizaines de milliers, et finalement, ça fait dire à de nombreux gérants avec qui je parle que c'est peut-être une opportunité derrière les publications qu'on aura de jouer les technos américaines. Et on voit cet arbitrage qui se produit sur les indices et le CAC également, où on voit des valeurs comme STMicro, ASML, Dassault Systèmes dans une moindre mesure, mais on voit les technologiques françaises, américaines et un peu partout qui reprennent de la vigueur. Et ça, c'est plutôt pour nous satisfaire dans nos portefeuilles.
Et puisque vous parlez de la tech, alors c'est vrai que ce soir, les GAFAM vont commencer à publier. Ça y est, Microsoft ouvrira le bal des publications après. Pour les GAFAM, exactement, après la clôture ce soir de Wall Street. Est-ce que les GAFAM ou certaines GAFAM vous semblent être à la fois des valeurs de croissance et entrer dans une thématique de gestion value? Je vous pose la question parce que c'est la value, la recherche des thématiques ou des valeurs décotées qui portent la hausse des marchés depuis le début de l'année. Certains nous disent, mais vous allez voir, les GAFAM, avec leurs publications, vont révéler le même potentiel qu'un certain nombre de value. Peut-être certaines GAFAM vont-elles apparaître comme des valeurs décotées. Est-ce que vous y croyez?
Oui, tout à fait. C'est le pari du redressement des valeurs technologiques qui fait que, compte tenu des contre-performances qu'on a pu avoir l'année dernière, on a parlé de contre-performances très violentes, hein, de 30 à 40, 50, voire plus en termes de correction. Donc là, typiquement, on est sur des paris 2023 qui militent en faveur de titres pour rentrer. Alors, on n'est pas à quelques pourcents près, donc on attendra la publication de Microsoft pour renforcer parce qu'on en a. Alors, on en avait, heureusement, dans certains cas, depuis très longtemps, donc on est toujours en plus-value. Les achats des nouveaux clients, eh bien, ce sera l'occasion pour eux de moyenner parce qu'on a, on est en moins-value latente sur ces portefeuilles-là. Mais on va surveiller. En revanche, on ne va pas anticiper les publications, mais on saisira l'opportunité une fois les publications connues pour rentrer sur ces titres-là, même si la performance peut être décevante et au contraire si le titre est sanctionné.
Bon, et Microsoft qui d'un côté licencie, de l'autre investit quand même, puisque Microsoft a confirmé hier un investissement de 10 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT. On voit le potentiel de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi ce que nous disent beaucoup de gens. Il faut quand même rester dans cette thématique tech et dans la big tech parce qu'il y aura de nouvelles disruptions et il ne faudra pas les rater.
Oui, tout à fait. C'est le grand sujet à la mode. Tout le monde en parle, l'intelligence artificielle et les applications. Et effectivement, à travers cette possibilité qu'on a et que Microsoft a, on voit effectivement qu'on a avec ChatGPT la possibilité d'ouvrir au plus grand nombre des changer et donc d'alimenter les algorithmes qui vont faire les recherches. Et donc, cet investissement est très, très pertinent pour Microsoft et il surfe sur une vague avec un gros ticket quand même. Et donc, oui, c'est plutôt un atout et à mettre dans la bonne colonne pour continuer à avoir envie de rentrer sur Microsoft, tout à fait.
Dans les publications, pour le coup, parisiennes, on va revenir sur notre marché, ça a un petit peu démarré chez nous aussi. Vous le disiez, les entreprises du CAC vont sortir du bois. Demain, Alstom, après-demain, ST Microelectronics et LVMH. En attendant, on a des petites et moyennes valeurs, notamment Interparfums aujourd'hui dans l'univers des mid-cap, qui se montre pour la suite prudent et qui est sanctionné. Alors que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre a progressé de 60%, c'est pas rien. Eh ben, le titre Interparfums recule quand même, moins 1%. Est-ce que le marché est sévère aujourd'hui, d'après vous?
Oui, le marché est plus sévère sur les valeurs moyennes parce que la visibilité peut faire un petit peu peur, qu'on attendra de voir véritablement la Chine repartir pour aller sur ce genre de valeurs. Et puis, je lisais ce matin une analyse d'Odo. Odo était neutre à l'image de certains autres brokers. Donc, il n'y a pas eu un élan de la part des brokers qui nous ont donné envie de rentrer sur Interparfums à ce niveau-là. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu une correction très sévère, mais en ce moment, il y a un gros bémol sur les valeurs moyennes.
Ça va durer longtemps, ce bémol sur les valeurs moyennes, parce que ça fait plusieurs années d'affilée quand même que les petites et moyennes valeurs font moins bien que les grandes, alors qu'historiquement, elles faisaient mieux. Et depuis quelques années, tout s'est inversé. Est-ce que c'est en train de devenir structurel ?
Structurel, en tout cas, c'est conjoncturel. C'est clair que...
c'est au moins conjoncturel, oui.
C'est au moins conjoncturel. Structurel, je n'irai pas jusqu'à là. Je pense que c'est un peu tôt pour l'affirmer. Mais en tout état de cause, tous les investisseurs que je vois veulent de la visibilité. Ils veulent voir des sociétés qui se réorganisent, qui sauvent leurs marges à travers des moyens divers et variés. La variable d'ajustement la plus classique, et on l'a vu avec les techno-américaines, étant la destruction d'emplois. Mais sinon, plus globalement, sur les valeurs moyennes, on n'arrive pas à avoir une véritable vision long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des marchés très compliqués, on préfère se réfugier sur des grandes valeurs sur lesquelles on a moins de mauvaises surprises. Et quand on en a, on les répare assez rapidement.
Vous nous direz lesquelles dans un instant, quelles grandes valeurs. Mais juste pour rester dans ces petites et moyennes, Carmat aussi a annoncé des choses intéressantes. Carmat met pour la première fois sur la table des objectifs financiers en termes de résultats, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité. Carmat vise enfin les profits, la rentabilité pour 2027. Bah dites donc, le marché, il est sévère. En tout cas, Carmat, aujourd'hui, guère récompensé, puisque le titre perd 3%.
Oui, c'est un titre qui a souvent été sanctionné par le marché. Là, effectivement, on a eu un chiffre pour l'année en cours, avec une fourchette relativement large, puisque on attend entre 10 et 13 millions de chiffre d'affaires. Et puis, effectivement, des comptes équilibrés en 2027. Nous sommes quand même qu'en 2023, donc la route va encore être un petit peu longue.
Il y a une date. Les marchés veulent de la visibilité. Il y a une date pour la première fois, il y a une date.
Oui, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué, Carmat. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé qu'à une époque, ils avaient fait l'objet d'une analyse assassine. Ils ont toujours eu du mal à s'en remettre. Et c'est vrai que les marchés n'ont pas la mémoire courte.
N'ont pas la mémoire courte. Carmat qui compte produire 1000 cœurs artificiels à horizon 2027,
oui,
1000 par an.
Oui, bon. c'est une vraie success story. Ah. Il y a eu des débuts un petit peu difficiles. Effectivement, ça n'a pas toujours été simple. Mais même si la société est de qualité avec des chercheurs véritablement reconnus, en termes boursiers, là aussi, ce sont des dossiers sur lesquels on hésite à aller.
11,50 € en ce moment, Carmat qui perd plus de 3%. Et vous préférez donc en ce moment les grandes valeurs, lesquelles ?
Oui, exactement dans la logique de ce que je viens de vous dire, on a entre des... Je ne vais pas vous parler des valeurs de fonds de portefeuille, je ne vais pas vous parler d'air liquide, je ne vais pas vous parler de choses comme ça.
Ne nous endormez pas, Franklin.
Pas
le fonds de portefeuille.
Non.
La surface, l'écume, ce que vous intégrez aujourd'hui.
Un petit peu ce qu'on a rajouté ou ce qu'on a moyenné sur les portefeuilles si on n'avait pas ces titres. On est revenu sur Airbus parce que quand je vous parle de visibilité, on a besoin de ça. On a besoin de visibilité avec des titres comme Airbus. Il y a un moment, on a vu, on l'avait évoqué ensemble en préparant l'intervention, c'est que quel est le rôle des hedges? On a vu que les hedge funds vendaient énormément certains titres à découvert. Le titre emblématique qui était survendu à Paris, c'était Alstom avec une position vendeuse qui était 18% du capital. Aujourd'hui, les hedges se sont rachetés. La société va se transformer et elle va publier, là encore. On a vu qu'on avait un peu digéré l'épisode Bombardier, où on se rappelle les contrats qui avaient été signés par Bombardier ne dégageaient pas de marge. Là, on fait le pari que Alstom ira beaucoup mieux demain, et donc on vient sur Alstom. On a remis dans les portefeuilles du Capgemini, du Dassault System pour ceux qu'on n'avait pas. Mmh. On joue le post-accident EuroAPI et on a remis du EuroAPI dans les portefeuilles.
Dans la santé.
On a mis de la SocGen, Société Générale. On a remis un peu de Soitec. On remet un peu d'automobile, Stellantis. Mmh. Et dans nos paris,
donc la moins chère.
Porsche et BMW.
Pas la moins chère.
Pas la moins chère.
Pour le coup.
Et puis, on a parlé tout à l'heure de Microsoft, de Estée Lauder, on n'en a pas parlé, mais c'est un titre que nous mettons.
Tout sauf le luxe, en gros.
Et
vous allez à l'inverse de tous les autres intervenants qui succèdent sur ce plateau.
Je vous ai bien dit que là, je vous parlais des titres que nous n'avions pas. Donc, en ce qui concerne L'Oréal, Hermès et LVMH.
Vous les aviez déjà.
On avait. Mais au-dessus de 800 euros, on a allégé LVMH et on reviendra dessus en attendant un petit retour de papier.
LVMH publiera jeudi, évidemment, ce sera le grand rendez-vous. Vous nous parliez aussi de la tech tout à l'heure avec la publication ce soir de Microsoft. Et quand même, le signal, c'est licenciement. Alors, nombreux ou pas si nombreux, puisque en moyenne, les géants de la tech qui ont annoncé des licenciements ont annoncé en gros se séparer d'un tiers des effectifs qu'ils avaient embauchés pendant et après la crise Covid. C'est à la fois beaucoup et finalement pas si énorme quand on regarde proportionnellement à cette masse d'employés qu'ils avaient d'un seul coup dû embaucher pour faire face à l'explosion à la hausse de la demande. On a un bel indicateur aujourd'hui pour la zone euro, dont on pourrait se dire que les marchés le salueraient. Ben non, c'est pas le cas. Le PMI qui repasse au-dessus des 50 quand même au mois de janvier. Là, qui l'aurait cru ? PMI composite en zone d'expansion alors qu'on est en plein hiver, qu'on craignait une pénurie énergétique et un moral dans les bas-fonds. Non, les directeurs d'achat retrouvent le moral en expansion donc. Peut-être le signe qu'on parviendra à éviter cette fameuse récession, on verra, en zone euro. Et pourtant, les marchés n'achètent pas, ils sont en petite baisse aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous ?
Alors effectivement, c'est un élément supplémentaire qui milite en faveur d'un rebond, ou d'une poursuite, pas d'un rebond, mais d'une poursuite de la hausse des marchés. Mais on a deux grands rendez-vous, cette saison des publications, et je pense qu'aujourd'hui, après 20% de hausse sur le rebond du 29 septembre, les gérants veulent en voir davantage, maintenant ils ont besoin d'être rassurés par les publications. Et puis n'oublions pas que le 1er février...
Le 1er décembre, c'est mon anniversaire.
Anniversaire, je vous lis avant ou trop tard.
C'est dans longtemps maintenant. Ouais.
Et l'idée, c'est qu'on aura le 1er février, donc, la Fed et le 2, la BCE. Et je pense que toute la semaine, on va être vraiment dans les starting blocks et que les marchés et les analyses vont attendre ces deux grands rendez-vous.
Mm-hmm. Oui, oui. Et certains se disent sans doute que les bons indicateurs, les PMI au-dessus des 50 en expansion, donc en zone euro, risque d'encourager certains membres de la BCE à pousser pour de nouvelles fortes hausses de taux. Ça offre peut-être encore un peu plus de marge de manœuvre à la BCE.
Oui, c'est ça. C'est que tout le monde parie sur 25 points de base pour la Fed. Il ne faudrait pas changer d'avis. Autant la BCE, on sait qu'elle va rester dure, mais il ne faudrait pas avoir de mauvaises surprises de la part des banquiers centraux.
Franklin Pichard pour Kipling Finance. Son analyse des marchés à quelques heures des prochaines publications. Demain, Alstom à suivre sur le marché parisien. Merci Franklin d'être passé nous voir. Donc, Kipling Finance régulièrement à nos côtés. Le CAC 40, il est 15h49, recule très légèrement, moins 0,2%. Wall Street aussi en petite baisse, moins 0,5% sur le S&P 500. Le Nasdaq, en deux jours, avait pris quasiment 5%. Aujourd'hui, petite baisse aussi, vraiment rien de méchant. On ne consolide pas vraiment sérieusement, pas du tout. On est à moins 0,6 en ce moment sur l'indice Nasdaq. Pour dire les choses en direct aussi, on va regarder les cours des matières premières et notamment du pétrole. 88,14 $ en ce moment sur le baril de Brent. Petite consolidation aussi donc sur le pétrole qui était monté en ligne droite ces deux dernières semaines avec la réouverture de la Chine et puis la fermeture aussi d'un certain nombre de pays au pétrole russe qui avait contribué à tendre les cours. Là, on est sur une très très légère respiration des cours du baril de Brent.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
La Chine apportera-t-elle beaucoup plus de vitamine C comme Chine, à l'économie mondiale et au marché? On va poser la question à François Monnier, il vient d'en joindre, le directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. En quoi la nouvelle politique sanitaire de la Chine change-t-elle la donne pour les investisseurs?
Ça change tout, Guillaume. En 2022, le game changer, c'était la hausse des taux. C'était l'intervention des banquiers centraux. Et 2023, c'est le comportement de la Chine. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, ça, c'est, on va le découvrir au fil des semaines, voire des mois. Mais ça change tout parce que on avait une politique sanitaire zéro Covid pendant 3 ans. Et là, ils abandonnent des mesures drastiques pour dire, ben voilà, maintenant la priorité, c'est la croissance. Donc, est-ce qu'on aura un regain de croissance rapidement? Aujourd'hui, c'est l'opinion des investisseurs. Ou on aura un regain de croissance, mais à moyen terme, sachant qu'à court terme, on peut avoir une résurgence d'une crise sanitaire au lendemain du nouvel an chinois, puisque le nouvel an, ça a commencé ce week-end, ça dure 15 jours, il y avait beaucoup de brassage de population, donc on va voir ce que ça va donner dans 3 semaines. Donc dans 3 semaines, on aura véritablement les idées beaucoup plus claires sur l'ampleur du rebond potentiel chinois. Mais cette nouvelle politique sanitaire arrive, j'allais dire, au bon moment, au plein milieu d'une série positive de nouvelles pour les investisseurs. On a une inflation qui commence un petit peu à refluer. On attend bien sûr des confirmations, mais on a le sentiment que le pic, il est plutôt derrière nous. On a des niveaux de croissance qui sont tout à fait acceptables, en tout cas moins pires que prévu. On a les entreprises qui sont bien gérées. On aura encore là aussi des nouvelles dans quelques jours avec la vague de publications qui va déferler sur la France, sur l'Europe et sur le monde. Donc on a un sentiment que finalement, l'année commence bien et la nouvelle décision sanitaire chinoise, ça permet d'avoir un CAC 40 en hausse de plus de 8% et personne ne dit finalement, il y a une euphorie sur les marchés, tout le monde reste prudent. Donc cette prudence montre que finalement, c'est peut-être une hausse qui est solide. Donc on peut pas se dire, ça monte pas sur rien, ça monte sur une accumulation de nouvelles positives. C'est les vendeurs qui se retirent, il y a quasiment bientôt plus de vendeurs sur le marché. Beaucoup d'acheteurs qui sont là, mais qui n'ont pas forcément appuyé sur l'accélérateur parce que on a énormément de gérants qui ont encore pas mal de cash dans les portefeuilles. Donc, tout le monde suit un petit peu ce qui se passe. Donc, beaucoup d'attentisme. Et l'heure de vérité, c'est dans 3 semaines. Donc là, 15 jours de fête chinoise où il y aura un énorme brassage de la population, comme on n'a jamais vu ça depuis 3 ans. Et on va voir derrière si, au niveau sanitaire, ça tient. Ou au contraire, il faudra s'inquiéter.
Quels secteurs, du coup, profitent ou sont susceptibles le plus de profiter de cette réouverture chinoise?
Les investisseurs ont tout de suite surjoué cette thématique, parce que on le sait, dans les années 2003, la thématique pays émergents, c'est ce qu'on appelle les méga-tendances. Tout de suite, il faut se ruer, parce qu'on sait que ça va drainer une accélération de la croissance des bénéfices nets par action des entreprises. Donc, c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut agir. Et donc, ils ont acheté massivement le luxe, bien sûr, parce que le luxe, en moyenne, c'est 30% de l'activité en Chine. Donc, on a eu un LVMH qui a affiché 400 milliards de capitalisation. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'une entreprise européenne. Donc, on est sur des hausses de 16%, on est sur des hausses...
Depuis le 1er janvier.
On a 14% de hausse chez Hermès, on a 14% chez Kering, donc le luxe est surjoué à tel point qu'on le voit que les entreprises qui étaient cataloguées luxe historiquement, comme Essilor Luxottica, Essilor Luxottica ne profite pas du tout cet engouement parce qu'ils sont pas assez chinois. Ils font que 5% en Chine. Donc, résultat, on a Essilor Luxottica qui, dans ce secteur un peu de valeur prestigieuse, de luxe, avec forte visibilité, il est stable depuis le début de l'année, alors que tous les autres caracolent en tête des indices. Donc, la thématique chinoise sur le luxe, ça a bien fonctionné. La deuxième thématique, c'est de dire, si la Chine redémarre, ils vont avoir besoin d'énergie. Et là, on a un phénomène qui est assez sympathique à observer, c'est que les cours du pétrole sont pas forcément bien orientés à la hausse. On a des compagnies pétrolières qui font du surplace, Total fait du surplace, mais on se dit il va falloir se rééquiper parce que demain la Chine va avoir besoin d'énergie, de pétrole, de gaz, et donc on voit le secteur parapétrolier qui progresse fortement. On a du Technip Énergie qui gagne près de 16% depuis le début de l'année. Donc on voit cette thématique qui est de dire attention, demain ils auront besoin d'énergie pour alimenter leur croissance qui va se réveiller. Et puis troisième phénomène, ce sont bien sûr les valeurs cycliques, parce que si on dit qu'il y a un surplus de croissance en Chine, eh bien probablement que à l'autre bout du globe, on va avoir peut-être moins de récession en Europe. Donc on avait peut-être été trop sévère, les investisseurs avaient été probablement trop sévères à l'égard des valeurs dites cycliques en 2022. Et donc, c'est pour ça qu'on a du Saint-Gobain qui fait un excellent démarrage depuis le début de l'année, parce qu'on est là aussi sur des hausses de 15-16%. Pareil pour ArcelorMittal dans le domaine de l'acier. Donc là, on est vraiment sur les produits de base. On est sur des hausses assez similaires. Donc voilà, cette thématique chinoise, elle a pris très très vite. On voit qu'il y a des flux qui s'orientent là-dessus, parce que on sait que bah voilà, si la deuxième puissance économique mondiale se réveille, eh bien ça va générer des surcroîts d'activité, alors que on estimait que sur l'ensemble de l'exercice 2023, la croissance économique serait relativement modeste.
Vous le disiez, il faut rester bien sûr prudent en fonction de l'évolution des contaminations en Chine, voir le poids de l'immobilier aussi qui reste une épée de Damoclès sur les perspectives chinoises, et tout simplement cette démographie qui ralentit, hein. L'an dernier, la Chine a commencé à perdre un peu de d'habitants. Bon. Puis l'Inde devrait cette année passer devant la Chine en nombre d'habitants. Le pays le plus peuplé au monde à la fin de l'année, ce sera l'Inde devant la Chine. Mais il n'empêche, la réouverture chinoise, c'est un énorme sujet. Alors vous avez cité ces quelques secteurs qui en ont déjà profité et qui ont bien progressé depuis le début de l'année. Est-ce que certains autres pourraient aussi profiter de la réouverture chinoise, mais sont en retard ?
Oui, il y a un secteur qui est pas du tout poussé par les investisseurs, et donc ça donne envie d'être un peu contrariant et de se dire bah tiens, pourquoi pas en mettre un petit peu aujourd'hui dans les portefeuilles. C'est les valeurs Covid. Donc là, il y a quand même un changement radical de politique sanitaire en Chine. Ce serait surprenant que l'épidémie ne reprenne pas un peu du poil de la bête. Alors c'est difficile d'y voir clair, puisque les autorités chinoises ont arrêté maintenant de comptabiliser le nombre de cas de Covid. Donc on navigue à vue, même si on manipule de plus en plus de data. On parle d'intelligence artificielle, mais des données essentielles, ben on les a plus. Donc faut rester humble vis-à-vis de la data et de l'intelligence artificielle. Donc là sur le Covid, on navigue à vue, mais on peut penser que quand même on aura un brassage de population. On aura des Chinois qui vont davantage voyager dans le monde, etc. Donc on peut se dire que, sans être alarmiste, on peut se dire que l'activité liée au Covid, elle devrait quand même perdurer au cours de cette année 2023. Donc avoir un peu de valeur liées au Covid qui ont fait une mauvaise année 2022 et qui depuis le début de l'année sont ou dans le rouge ou au mieux stables, eh ben ça peut être intéressant. Donc avoir du Pfizer qui perd près de 16% depuis le début de l'année, avoir du Sartorius Stedim qui est stable, avoir du Biomérieux ou de l'Eurofin scientifique, ce sont des thématiques qui sont pas du tout jouées, alors que il y aura probablement un impact. À savoir quand, on le saura dans 3 semaines, mais peut-être que dans 3 semaines, ce sera trop tard. Parce que, on l'a vu, les démarrages sont assez fulgurants. Donc, dans 3 semaines, on se réveillera peut-être avec 2-3 séances où Eurofins ou Sartorius Stedim auront déjà pris 15, 16 ou 20%. Donc, ça peut être intéressant aujourd'hui dans un portefeuille d'avoir un petit peu ces titres-là en se disant, bon, de toute façon, on sait qu'il y a de la croissance, on sait qu'ils sont rentables, on sait qu'ils ont un bilan extrêmement solide. Donc, soyons un peu contrariants, parce que autrement, c'est peut-être un peu tard pour courir après la hausse sur des titres qui ont déjà pris une vingtaine de pourcents. Essayons d'avoir un temps d'avance, et le temps d'avance, on peut l'avoir avec les valeurs Covid.
François Monnier et son regard sur la réouverture chinoise, les opportunités qu'elle ouvre encore aux investisseurs qui sauront trouver les secteurs qui n'ont pas encore bénéficié suffisamment en bourse de cette réouverture, mais qui pourraient rattraper ce retard rapidement. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, la Chine, le grand réveil. On rappelle aussi que la Chine est devenue le deuxième exportateur mondial de voitures, passant devant l'Allemagne. Et puis c'est l'année du lapin qui démarre en Chine. La meilleure année boursière de l'histoire chinoise, c'est l'année du cochon. Elle était tombée une année du cochon. La deuxième meilleure année boursière de l'histoire des marchés chinois, c'était une année du lapin. On verra
Vous apprenez quelque chose.
Voilà, si cette année du lapin fermé au marché
chinois. On va surveiller.
Le début d'année est très bon pour les marchés chinois.
C'est vrai.
Il y a aussi des ETF d'ailleurs pour ceux qui veulent y aller, mais attention, c'est très volatile. François, merci d'être venu et passer nous voir. On vous retrouvera vendredi, bien sûr, aux côtés de Cédric Decoeur dans BFM Patrimoine. Le CAC 40, il est 15h59, recule toujours très légèrement dans le sillage aussi des marchés américains, moins 0,2% à Paris. Mais on préserve quand même les 7000 points. Toujours pas de vraie respiration sur les marchés après cet incroyable début d'année. Le CAC est à 7016 points.